Dans l'affaire Salvaille, le seul plaignant retenu par le DPCP est sorti de l'ombre. Donald Duguay, celui qui a été retenu donc par le directeur des poursuites criminelles et pénales dans l'affaire Éric Salvaille, a décidé de parler. Pourquoi? Nous allons demander à Monique Néron, que vous connaissez bien, chroniqueuse judiciaire à l'émission « Puisqu'il faut se lever » de Paul Arcand. Monique, bonjour.
Bonjour, Paul.
Qu'est-ce qui a motivé donc Donald Duguay à parler aux médias?
Ça faisait plusieurs mois, en fait, qu'il réfléchissait à cette possibilité. Selon ce qu'il m'a expliqué, lui croit fermement que ce n'est pas à lui à baisser la tête, à vivre dans l'ombre, dans la honte. Hein. C'est un sentiment souvent qui habite les victimes d'agressions sexuelles. Lui souhaite aller jusqu'au bout du processus judiciaire et il s'est dit, je vais le faire à visage découvert, je vais parler, sortir publiquement, revenir sur les derniers mois qui ont été excessivement difficiles, mais je vais le faire une seule fois, c'est-à-dire parler une seule journée comme il le fait aujourd'hui. Et d'ailleurs, la procureure de la Couronne, parce que je lui ai posé la question, est au courant, parce que ça peut paraître quand même, somme toute, assez étonnant qui sort publiquement pendant une procédure judiciaire. Il a demandé l'avis, si vous voulez, de la procureure de la Couronne au dossier. Et tant et aussi longtemps qu'il n'entre pas dans les faits de la cause, et bien sûr, il y a un certain respect, là, un très grand respect pour la procédure judiciaire, ça ne devrait pas entraver quoi que ce soit. Jusqu'ici, donc, ça ressemble pas mal à ça, là, la raison, qu'il l'a motivé à sortir publiquement aujourd'hui.
Alors, vous l'avez dit, il y a des choses qu'il ne pouvait donner, enfin, des détails qu'il ne pouvait pas révéler. Cependant, on a appris des choses comme quoi, en fait, cette période de harcèlement remonte à 26 ans, en 1993, et a pour lieu la tour de Radio-Canada. Il a même été très précis en parlant, en alléguant avoir été agressé dans une salle de bain de la tour de Radio-Canada.
Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il travaillait comme messager à Radio-Canada avec Éric Salvaille. Donc, ce n'était pas une situation d'abus de pouvoir. Éric Salvaille n'est pas connu du tout à l'époque, à ce moment-là. Ils sont donc collègues vis-à-vis. Et en effet, l'événement d'agression sexuelle et de séquestration se serait produit dans une salle de bain de Radio-Canada, dans la tour de Radio-Canada, et il y aurait eu au préalable un espèce de crescendo d'harcèlement qui aurait duré pendant plusieurs mois. Et vous allez voir quand on dit qu'il revient de loin, parce que le 17 octobre 2017, on se souvient très bien de cette date qui est la date de parution de l'article de la presse, où 11 personnes accusaient publiquement Éric Salvaille d'inconduite sexuelle. C'est ce jour-là où on a porté à son attention l'article. Et là, pour lui, ça a été un choc qui, comme vous allez l'entendre dans l'extrait dans quelques secondes, l'a mené jusque dans un lit d'hôpital en psychiatrie à Maisonneuve-Rosemont.
J'ai un peu lu ce qui s'était dit sur le truc toute la journée et c'est ce qui a déclenché ma mémoire traumatique. Les souvenirs, les sons, beaucoup de choses reviennent en mémoire. C'est très déstabilisant. On revit tout comme si c'était hier. Les crises d'anxiété, attaques de panique, les tremblements sans cesse. J'ai passé 5 jours sans dormir, vomissements. Le cerveau, pour survivre à cette faculté-là, de mettre dans un tiroir, de bien enfermer. Et je vous dirais qu'à ce moment-là, le tiroir s'est ouvert et il n'y avait plus moyen de le remettre en place. 48 heures après avoir fait la plainte à la police, le stress était vraiment trop élevé pour travailler. Donc d'essayer d'un retour progressif au travail. Ça n'a pas fonctionné. Je me suis retrouvé sur l'aide sociale, les banques alimentaires. J'arrivais plus à m'occuper de moi-même, de mon quotidien.
Alors ça, c'est évidemment, vous l'avez dit, Monique, ça correspond, ce choc post-traumatique, ce réveil, en fait, de ses souvenirs effroyables pour lui, à la publication de l'article de la presse de 2017.
Voilà, donc à l'automne 2017, et pendant quelques jours, il se retrouve à l'hôpital, et en sortant de l'hôpital, il en discute avec des gens de son entourage, et là, il décide de porter plainte au FPVM directement. Il met donc, là, si vous voulez, à ce moment-là, le pied dans l'appareil judiciaire, mais il ne sait pas, évidemment, qu'il va être le seul, au bout du compte, à se rendre au bout du processus. Je vous invite à l'entendre à nouveau.
Lorsque la police a décidé d'ouvrir une ligne, j'avais déjà réfléchi pendant 2-3 jours avec mon médecin, avec des amis, à savoir ce que je faisais. Et je voyais bien que ce qui sortait dans les médias était quand même assez récent dans la dernière décennie. Je me disais, s'il y a d'autres victimes comme moi qui ne sortent pas, si on se dit tous, ça ne me regarde pas, je veux pas aller rejouer là-dedans, on n'aura jamais le portrait global. Donc, ça devenait une responsabilité. Je n'ai jamais su si j'avais été sa première victime, mais je me disais qu'il était presque impossible qu'en 93, au début, les premières fois où il y a eu les premières altercations, parce que ça s'est fait en crescendo, nous travaillions tous les deux à la salle du courrier de Radio-Canada. Donc, c'était plus profond qu'un abus de pouvoir ou que l'argent monte à la tête ou sa notoriété. Il y avait autre chose. À l'époque, je venais d'avoir 20 ans. L'homosexualité n'était pas aussi bien acceptée. J'ai travaillé à Radio-Canada. J'avais un contrat temporaire. C'est arrivé un vendredi. Le lundi suivant, j'ai voulu aller porter plainte à la police. Et les collègues, les amis, évidemment, on pèse le pour et le contre. Ils disent, bon, est-ce qu'on va te croire? Est-ce que tu vas garder ton travail? Il y a la guerre du SIDA. Comment tu vas être accueilli avec la police? Tu vas perdre ton emploi? J'étais trop jeune pour arriver à prendre des décisions si grandes et j'ai rebroussé chemin. Aujourd'hui, je me sens en partie coupable parce que je me rends compte que son comportement a continué et que si peut-être je l'avais arrêté à ce moment-là, j'avais été à la police, il y aurait peut-être beaucoup de victimes qui auraient eu une meilleure vie. Le système ne peut pas agir si les victimes ne sonnent pas l'alarme. Mais j'ai failli à mon devoir de citoyen à ce moment-là. C'était important pour moi de ne pas faillir une deuxième fois. Et c'est là où le processus judiciaire s'est mis en place.
Alors voilà, Monique, c'est très intéressant ce qu'il dit. Il ne pouvait pas porter plainte à cause des pressions et évidemment, probablement aussi du contexte en 1993. Ce n'est que 24 ans plus tard, donc, qu'il porte plainte.
Exact. Et je sais que beaucoup de gens se disent, mais pourquoi avoir attendu si longtemps? Dans le cas de M. Duguay, mais dans le cas de bien d'autres agressions sexuelles, c'est une question qui est tellement complexe et qui appartient à tous et chacun. La raison pour laquelle on attend, on garde ça en dedans, et M. Duguay l'explique bien dans son cas à lui, jeune homme, en emploi temporaire à Radio-Canada, dans un contexte d'homosexualité où il se pose énormément de questions et où on semble lui avoir conseillé penser à deux fois, finalement, avant d'aller voir les policiers. Mais c'est quand même une démarche qu'il a envisagé faire de façon très, très contemporaine à l'événement à l'époque. Et quand il dit qu'il a rebroussé chemin, c'est parce qu'il était en direction là, de la police. Finalement, il a changé d'idée et a enterré ça pendant tant d'années en disant « je vais me guérir moi-même, je vais m'organiser avec mes affaires ». Et en octobre 2017, quand il entend tout ça, se dit « mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'aurais dû en parler plus tôt? » Évidemment, ce sera au tribunal de trancher. Il y a une procédure judiciaire en cours et ça, il en est bien conscient. Ce qu'il me racontait, Paul, c'est « moi, je vais aller raconter ce que j'ai vécu, je vais dire la vérité, puis ensuite, ce sera un juge de trancher ». Mais chose certaine, il a décidé d'aller jusqu'au bout. C'est beaucoup de pression, c'est sûr, que d'être le seul plaignant, parce qu'on sait qu'il y a eu d'autres plaintes qui n'ont pas été retenues par le directeur des poursuites criminelles et pénales. Mais c'est un combat qu'il a choisi de mener. Alors, bien sûr, on va suivre ça dans les prochains mois. Je pense pas qu'il faille s'attendre à un procès très, très bientôt. Hein. Vous savez, les procédures judiciaires sont ce qu'elles sont. C'est assez long. Il va peut-être y avoir une enquête préliminaire au préalable. Donc, c'est quand même une grande aventure judiciaire qui s'annonce.
Merci beaucoup, Monique Néron.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir. Monique Néron, que vous pouvez entendre chaque matin, bien sûr, chroniqueuse judiciaire à l'émission « Puisqu'il faut se lever ».